les amis et bienvenue dans le Blabla Mix. Vous êtes bien sûr sur les ondes de la radio HDR et de Principe Actif et qu'il est 17h bien sûr. Habituellement donc vous entendez la voix de Damien qui est en arrêt maladie cette semaine. Donc voilà, je vais essayer d'assurer et essayer d'être à la hauteur du tâche qui m'a été confiée aujourd'hui. Bien sûr, comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous bien sûr avec les sorties culturelles, donc voilà, qui seront assurées par moi-même et aussi nos jeunes stagiaires. Donc on prépare quelques petites chroniques pour vous et aussi vous découvrirez l'association Bihumaine avec Emma, donc qui est venue nous parler de cette association. Et bien sûr, tous les jeudis, sans la chronique de Doc Mansour, donc il manque quelque chose de cette journée. Bonsoir tout le monde, bonsoir Doc.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Alors, donc la semaine dernière, vous n'étiez pas disponible. On a diffusé une rediffusion de violence. Non, c'était quoi la chronique déjà?
Liberté violente, liberté non violente, mort violente.
Effectivement. Donc voilà, nous avons diffusé ça. Donc on va reprendre la chronique sur l'histoire de la psychiatrie. Oui. Donc voilà, vers 17h, 17h15 à peu près. Et puis, bonsoir Marie, ça nous fait plaisir. Ça, c'est un plaisir. On n'est pas vendredi, donc voilà, mais elle est là.
Je change les habitudes, je suis comme ça. Je suis venue exprès pour la chronique sur l'histoire de la psychiatrie en fait.
Venez comme vous êtes et voilà, tous les goûts sont dans la nature. Comment ça va Justin?
Ouais, ça va bien et toi?
Bien au calme?
Ouais.
Comment ça va Mike?
Ça va et toi?
Bien?
Ouais.
Ok, donc voilà. Et puis voilà, sans tarder, notre invité de ce jeudi, donc voilà, c'est une jeune patronne qui vient de s'installer ici à Rouen et nous l'avons, qui vient de s'installer ici à Rouen avec son restaurant et nous l'avons testé pour vous. Et il y avait de la saveur dans la chaleur humaine et du goût dans le mix des recettes et le mix des cultures était là avec Damien et Inès pour colorier cet entretien avec Rama Diop, la patronne du Soleil d'Afrique, vers 17h30. Marie, est-ce que je suis un digne élève de toi?
Oui, ah, franchement tu fais mieux.
Donc nous partons en musique avec Barbara George, I Know, sur les ondes de la radio HDR et juste après bien sûr les sorties culturelles.
Sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Et ben voilà, nous allons vous parler de quoi? Donc je vais vous parler de ce samedi 21 décembre de 13h30, le centre socio-culturel de Simone Veil qui se trouve à Grammont organise leur premier marché de Noël et foire aux jouets et livres. Donc voilà, c'est un événement ouvert à tous, c'est l'occasion pour les habitants de Grammont de vendre quelques jouets et livres pour préparer Noël. Venez nombreux ou allez nombreux, je sais pas. Donc voilà, venez comme vous êtes. Et l'association Bihumaine, donc voilà, qui collecte des fournitures scolaires pour faire un voyage humanitaire et aussi humain, parce que c'est aussi ça, cette association. Donc voilà, si vous avez des dons, des livres, des matériels sanitaires, du multimédia, des jeux à donner, donc voilà, l'association Bihumaine, donc voilà, se propose de recueillir ces dons pour les offrir aux pays de l'Est, voilà, les jeunes qui ont besoin de ces fournitures scolaires. Et là, tout de suite, sans transition, avec nos chers stagiaires. Donc voilà, ils ont préparé quelques chroniques. On commence par qui ? Mike, justement, qui c'est qui est chaud ? Mike.
Ouais, moi.
Ok. Tu veux nous parler de quoi, Mike ?
Moi, je vais parler
d'un événement.
D'un événement qui s'est passé lundi.
Ah, ça s'est passé lundi ?
Ça s'est passé lundi, ouais.
Ah, faut croire que la société, les gens, ils ont la tête chaude maintenant.
Hein ? Ouais.
Ok, justement, t'écoute.
En fait, moi, je vais parler de l'agression d'un chauffeur de bus envers un citoyen.
Un usager du bus ?
Ouais.
Le chauffeur de bus a agressé quelqu'un ?
Ouais, parce qu'en fait, lundi, en fait, vers 20h, mm-hmm. si je ne me trompe pas, il y a un citoyen normal qui monte dans le bus. Mm-hmm. Et en fait, il a entendu le chauffeur de bus qui était au téléphone. Mm-hmm. Du coup, en fait, la personne de 27 ans s'est levé et a dit au chauffeur que c'était pas normal qu'il soit au téléphone pendant qu'il conduisait.
Oui.
Et du coup, en fait, le chauffeur a commencé à s'énerver en disant qu'il était pas au téléphone, qu'il parlait tout seul, etc.
D'accord.
Du coup, la personne de 27 ans n'a pas insisté et s'est rassis. Et au moment de descendre du bus, uh-huh. Il a voulu prendre la plaque d'immatriculation du bus en photo. Uh-huh. Pour aller se plaindre à la TCR.
Pour avertir la TCR.
C'est ça.
Oui.
Et en fait, le chauffeur de bus a voulu écraser la personne.
C'est un peu extrême quand même. Genre là, les gars.
Je me dis que peut-être que la personne a cru que c'était la fille du vendredi qui fait des chroniques sur eux.
C'est elle, la voilà, enfin, je vais la voir. Ah.
Et du coup, en fait, la personne de 27 ans a réussi à esquiver, si je me rappelle bien. Uh-huh. Et en fait, le chauffeur de bus est descendu du bus, a arrêté le bus, il est descendu. Et il a commencé à tabasser le citoyen de 27 ans.
T'es sûr que les rôles ils sont pas inversés ? C'est pas le gars qui a tapé le chauffeur du bus. Non, le chauffeur du bus est descendu son bus pour taper le gars.
Wow.
Donc voilà. Ouais. Alors les usagers du bus, donc, si vous voyez un chauffeur de bus au téléphone, bon, laissez-le finir sa conversation tranquillement. Sinon, voilà, il va vous arriver des bricoles.
Et du coup, en fait, la personne de 27 ans a des traumatismes.
Oui.
Et a porté plainte hier, mercredi.
D'accord, ok.
Contre le chauffeur de la TCR.
Bah écoute, on vous donnera des suites de cet événement alors, parce que des chauffeurs qui tapent de leurs clients, si on peut dire ça, c'est pas, on n'entend pas tous les jours. Alors Justin, j'espère que toi t'as quelque chose de plus joyeux.
Ah oui, joyeux non.
Ah d'accord, ok.
Non mais déjà je suis
c'est
désolé.
C'est pas un chauffeur de train qui a tapé un manifestant.
Non,
lui a roulé dessus.
Après c'est pas joyeux non plus.
Ah, super,
bon, déjà moi c'est une plus petite chronique déjà parce que j'ai pas eu trop de temps parce que j'ai une journée chargée quand même. Donc c'est juste pour un message pour avertir les gens de ne pas boire l'eau.
Ah.
L'eau du robinet, parce qu'elle a été jugée impropre selon l'Agence régionale de la santé de Normandie. Depuis vendredi 13 décembre 2019, l'eau a été jugée impropre et ça a été découvert hier, le 18.
D'accord, ok.
Selon l'Agence régionale de la santé.
Et bizarrement, c'est vendredi 13.
D'accord. Ouais, vendredi 13, c'est ça.
Bah, super, du coup.
Et dans 40 communes de la Seine-Maritime.
Ils sont efficaces, ces gars-là. Ouais. Après, Lubrizol, on risquait rien, mais maintenant, on ne sait pas pourquoi.
Maintenant, c'est juste parce qu'il y a la tempête, c'est moins grave.
Bah, écoute,
la boue, ça fait plus de mal que les hydrocarbures.
Donc voilà, le message est passé. Donc voilà, c'est pour les auditeurs de la radio. Donc voilà, et faites attention à l'eau du robinet. Comme voilà, c'est les consignes de l'Agence régionale de santé. Nous allons partir en musique et nous allons revenir avec la chronique de Emma, donc, qui est venue nous parler de l'association Bihumaine et toutes les valeurs et aussi toutes les actions qui animent cette association. Juste après RCCS Petit Fleur.
Les odeurs se dégagent. dégager un doux parfum à s'enivrer. Tu étais belle comme un soleil parmi la foule et les pavés. Ta robe bleue étincelle a pris mon cœur, ses pensées. Petite fleur, la reine, la douceur du miel et des couleurs. Petite fleur, ta sève coule dans mes veines et tu as touché mon cœur. La première fois de ma vie que malgré moi je suis à l'heure. L'heure à laquelle tu étais là, au milieu des agitateurs. Parmi les lumières de la nuit, tu brillais comme une pierre de lune. Réduit en miettes, en confettis, toutes ces belles plantes qui font la haine. Petite fleur, ta reine, la douceur. Changer en vaine mon infortune. De la tendresse sur les barèmes, mais beaucoup d'amour à la tribune. T'as fait l'impasse sur mes lacunes et mon credo. Je te fais une place avec ma plume et quelques mots. Petite fleur, la reine, la douceur.
RCCS aux petits fleurs sur les ondes de la radio HDR et de Principe Actif. Et là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Emma. Donc, elle est venue nous parler de l'association Be Human, donc une association qui associe utile et plaisir, voyager, rencontrer et créer des liens entre les humains, entre les pays. Donc voilà, je vous propose de découvrir l'association Be Human avec Emma.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Nous sommes avec Emma qui représente l'association Be Human. Emma, bonsoir Emma.
Bonsoir à tous.
Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent et présenter votre association Be Human?
Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Emma Benasser, j'ai 19 ans, je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur en agronomie sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Donc cet été j'ai créé mon association qui s'appelle donc Be Human, qui signifie soi humain en français. Dans l'objectif donc de partir en raid humanitaire en août 2020. Donc c'est un raid humanitaire qui s'appelle Europe Raid, qui se déroule sur 3 semaines et qui traverse 20 pays de l'Europe. Donc voilà, l'objectif de cette association, c'est donc de récolter des fournitures scolaires afin de les acheminer dans 4 pays d'Europe de l'Est, qui sont donc la Bulgarie, la Macédoine, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine.
D'accord, ok. Et vous allez collecter ces fournitures scolaires auprès de qui, de quel public, auprès de quel public par exemple?
Donc là, pour l'instant, on a déjà récolté quelques dizaines de kilos, donc principalement de nos proches et amis. On a aussi des magasins qui nous font des dons et on a aussi récolté un fauteuil roulant parce qu'on prend vraiment plusieurs types de fournitures, c'est-à-dire qu'on récolte des fournitures scolaires, sanitaires. mais aussi des jeux ou des fournitures multimédia et des fournitures sportives également. Donc c'est très très large et vraiment on est ouvert à toute proposition de dons en fait. On récolte vraiment de tout.
Donc vous m'avez dit que vous avez 19 ans et comment ça s'appelle, œuvrer pour une association comme ça. Alors j'ai envie de dire, vous êtes trop jeune pour vous intéresser à ça. Alors d'où vous êtes venu l'inspiration, l'idée de vous consacrer un peu aux autres?
Ça, c'est un peu l'éducation que j'ai reçue déjà. Oui. Et ensuite, en fait, je suis tombée totalement par hasard sur ce raid. Uh-huh. Et c'est un peu apparu comme une opportunité. Et j'essaie de vivre sans avoir de regrets. Mmh. Et je sais que si je ne m'étais pas lancée dans l'aventure de ce raid, on part environ entre 250 et 300 équipages. Donc ça fait plusieurs centaines de personnes qui se lancent dans l'aventure.
L'association, elle est créée quand ?
L'association, je l'ai créée en juillet cette année.
D'accord, c'est une jeune association alors ?
Oui, totalement. Ça fait simplement quelques mois. Et en fait, au tout départ, elle est créée uniquement pour ce raid humanitaire. Mmh. Et on verra en revenant ce que l'on en fait, si au final on se lance dans d'autres aventures ou si on la ferme. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite.
Le parcours, ça s'est mis en place comment ? Comment vous avez contacté les autorités ? Comment ça s'est mis en place ?
Alors en fait, EuropRaid, c'est un raid humanitaire qui est organisé donc, par une organisation particulière. Mmh. Et nous, on ne fait en soi que s'inscrire au raid. C'est-à-dire que nous, on s'occupe voilà, de préparer notre raid, de récupérer la voiture, parce qu'il faut savoir que ce raid-là se fait particulièrement en Peugeot 205.
Mmh. Ah, pourquoi particulièrement en Peugeot 205?
Alors ça, par contre, je ne peux pas vous le dire. C'est comme ça. On part à plusieurs dizaines, centaines de Peugeot 205 qu'on va ensuite personnaliser voilà, avec nos encarts publicitaires, nos coverings, nos couleurs différentes. Mmh. Et voilà, nous, en soi, on s'occupe vraiment de préparer notre raid, de préparer nos fournitures, notre voiture, de tout mettre au point. Et après, il y a l'organisation qui se charge un peu de nous guider, c'est-à-dire qu'on va partir avec un roadbook pour nous dire voilà, les routes que l'on doit prendre à peu près, environ, parce qu'on fait toujours du hors-piste. Mm-hmm. Mais l'organisation gère une grosse partie au niveau des bivouacs, parce que le soir, on va dormir en tente, voilà, dans des endroits parfois un peu particuliers. Et c'est l'organisation de EuropRaid qui se charge de tout ça.
Alors, comment on peut adhérer à l'association Be Human?
Alors, on a deux réseaux sociaux. Mmh. On a Instagram. On peut nous retrouver au nom de Bihuman 2020. Et on a également donc Facebook où on s'appelle Bihuman EuropRaid 2020. Mmh. Et sur cette page-là, vous allez pouvoir tout retrouver. Voilà, nos aventures du quotidien, nos cagnottes de crowdfunding également. Et là où vous pourrez donc adhérer, faire des dons, nous contacter si jamais vous avez des dons de fourniture à nous faire ou simplement nous envoyer un petit message de soutien ou autre. Voilà, on est toujours contents de voir que les gens sont derrière nous et qu'ils sont engagés aussi.
On n'y manquerait pas, en tout cas, à la radio HTR.
Merci.
Alors,
beaucoup.
Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon bénévole de l'association Be Human?
Il faut être justement engagé. Il faut, je pense, avoir un minimum de cœur et on ne demande pas grand-chose, juste des gens qui sont volontaires et voilà, un peu de soutien et simplement, on ne demande vraiment pas grand-chose.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour les autres que j'ai pas pensé à te demander?
Rien en particulier, juste n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page, à en parler autour de vous, on demande vraiment pas grand chose. C'est le bouche à oreille qui fait le plus gros du travail pour nous et voilà, faut savoir qu'on récolte des dons de fourniture, principalement, j'ai cité tout à l'heure, mais on a aussi énormément besoin de dons financiers ou d'entreprises qui nous soutiennent. Voilà, l'objectif aussi, c'est d'avoir des contacts avec des entreprises avec lesquelles on va pouvoir passer des partenariats ou du sponsoring.
C'est vrai, on n'a pas parlé des partenaires, parce que
oui.
J'imagine que vous avez des partenaires ou vous avez des idées de partenaires qui doivent se concrétiser peut-être dans le futur, non ?
Ça commence à venir, oui. Et c'est eux, au final, qui nous financent le plus gros du raid et sans eux, on ne sera pas grand-chose. Donc voilà, on est vraiment à l'appel d'entreprises qui serait là pour nous soutenir. Voilà, nous, c'est du donnant-donnant. En échange, on fait énormément de communication sur cette entreprise-là, à nos adhérents, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, pendant le raid aussi, on va faire beaucoup de communication. Et le but aussi, c'est de placer un encart publicitaire, en fait, sur notre voiture, avec laquelle on va se déplacer tout au long du raid et donc de pouvoir montrer un peu tous ces encarts aux gens qui vont nous croiser.
Donc, ça se passera de quand en quand, donc les dates du début du raid ou jusqu'à la fin?
Alors, on part 3 semaines du 1er au 22 août 2020.
C'est super. Donc voilà, toutes les routes européennes vont être colorées des Peugeot 205 de toutes les couleurs et puis de tous les.
Ce sera compliqué de nous rater.
C'est sûr et certain. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette association, en tout cas, qui véhicule des valeurs humaines comme ici à la radio HDR, et aussi de cette aventure qui est aussi pleine d'humanité et de découvertes.
Voilà. C'est merci beaucoup.
Merci.
Exactement.
Voilà, vous venez d'entendre Emma, et si vous voulez faire un don, donc voilà, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, donc voilà, un stylo, un cahier, enfin un jeu que vous n'utilisez pas, c'est toujours pour ça. Si vous n'en avez pas besoin, ben ça peut servir à d'autres. Et voilà, et juste après ça, et vous avez rendez-vous avec Doc Mansour.
I have a dream that one day.
Liberté d'expression.
I have a dream.
Abolition de la peine de mort.
I have a dream.
Justice internationale.
I have a dream today.
Respect des droits humains.
La chronique d'Amnesty International, émission mensuelle sur Radio HDR. Le premier samedi du mois de 13h à 14h et en podcast sur radiohdr.net.
Et voilà, c'est l'heure c'est l'heure de votre chronique Instant d'Histoire avec Doc Mansour et l'histoire sur la piscaterie. Est-ce que on va dire c'est une évolution de cette discipline ou qu'est-ce qu'on va découvrir Don? Comment on pourrait appeler ça?
Une évolution et surtout un croisement d'idéologies. Donc en fait, au début du plein milieu du 19e siècle, il y a plein d'idéologies puis de théories qui émergent comme celle de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui n'était qu'une théorie, mais aussi plein d'autres. Et en fait, en France, il y a Bénédicte Auguste Morel qui, lui, commence à élaborer, parmi le monde psychiatrique, une théorie qui ne vient pas que de lui, qui vient aussi d'un Anglais, en fait, sur la dégénérescence des malades mentaux et des criminels. Donc en fait, qui au fur et à mesure du temps prend du relais, et après, alors, un des relais, c'est Valentin Magnan, et très rapidement, au contact de cette théorie, qui en fait va s'associer à la défense sociale et mélanger un peu au darwinisme, on arrive à une espèce de darwinisme social et voire mental. Et en fait, on commence à sonner une alarme sur cette chose-là, et surtout grâce à Francis Galton, qui est anglais, qui lui en fait va ébaucher toute une théorie par rapport à ça. Donc Galton, lui, il est né en 1822, près de Birmingham, issu d'une famille très aisée. Son père est banquier. Et non seulement banquier, très instruit et surtout cousin de Charles Darwin.
Ok, donc les liens, c'est tout de suite fait.
Oui, plus ou moins. Il fait plusieurs écoles, toujours du côté de Birmingham. Mais l'enseignement classique et religieux, en fait, ça lui convient absolument pas. Donc on décide qu'il devient médecin. Ça, c'est la grande ambition de son père, d'ailleurs. Donc il va étudier cette discipline à Birmingham d'abord, un an à Londres, et en fait il va profiter de ses voyages entre 1840 et 42 en Allemagne, dans le but de suivre des cours de chimie, qui plus est.
D'accord.
Bon, pour découvrir en fait un peu plus le sud de l'Europe, surtout la Turquie et la Grèce, et c'est, en fait au fur et à mesure il apprend, il lit, il commence à y boire, et il regarde en fait surtout ce qu'on appellera un peu plus tard les aliénés. On les appelle déjà comme ça en réalité. Et en fait, il voit le comportement de ces gens-là, il se demande s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela. Donc, il va élaborer sa théorie eugéniste. Donc, l'eugéniste, ça veut dire bien-né.
Bien-né, d'accord.
En grec. Ça existait déjà dans la Grèce antique, en fait, cette façon de penser. Donc, il va rentrer au Trinity College de Cambridge, et là, cette fois-ci, il va suivre des cours de mathématiques. Mais bon, il est un peu malade, donc il peut pas continuer à suivre ses. Il est obligé de s'arrêter, il n'aura pas son diplôme. Et là, il reprend ses études de médecine. Mais voilà, en plein milieu de ses études de médecine, bah, son père est décédé. Mais il se retrouve en fait à la tête d'une immense fortune, et en fait, il devient totalement financièrement indépendant. Et donc, il va commencer directement à exercer la médecine malgré tout.
Et il n'avait pas fini ses études ?
Non, il va les finir au fur et à mesure.
D'accord.
Donc, il va consacrer, en fait, sa passion, c'est le sport. Donc, le sport et le voyage. Donc, il va faire un premier voyage en Égypte, jusqu'à Khartoum. Il convainc plusieurs expéditeurs d'aller observer. Mais en fait, tout ça pour observer l'humain. Au départ, c'est partie d'une bonne stratégie.
C'est intéressant.
Donc, il va rejoindre le Royal Geographic Society en 1850. Et là, il va éditer plusieurs articles, il va en Anubie, il va ailleurs. La même année, bon, il se marie, il a des enfants, ça c'est, on va dire le. Et c'est là qu'il voit son cousin Charles Darwin sortir ce fameux livre, de l'origine des espèces, première édition. Il y en a eu 9 en tout. D'accord. Et en fait, au moyen de la sélection naturelle en 1859. Et ben en fait, ça va changer tout le centre de son intérêt en fait. Il l'avait déjà, mais alors là, ça confirme tout ce qu'il pense. Il dit, comme selon cette théorie, on évolue, mais en mieux. Mmh. Donc l'humain doit évoluer en mieux. Donc on doit éliminer les plus faibles.
J'ai peur pour les malades.
Bah, il faut éliminer les plus faibles. Donc pour cela, il va même inventer une façon complètement de faire des catégories, des systèmes d'analyse avec des tableaux. Et en fait, tout cela coïncide avec tout ce qui se passe en France d'ailleurs, avec Morel et tous les autres. Mmh. Et de cette théorie-là, en fait, beaucoup de psychiatres vont s'y intéresser. En disant, mais en fait, certains sont malades du fait de la société, certes, mais d'autres, non, c'est une dégénérescence. Et pour sauver la société, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y en a une qui est en train de se développer déjà à l'époque et qui va faire en sorte que on arrive à, dans les années 30 à une autre façon de pouvoir encore. Mmh. Ben en fait, l'eugénisme devient un moyen de sélection. On remplace la nature. On prend le dessus de la nature. Et en fait, il faut créer une population d'élite. C'est ça la grande théorie de Galton. Et en fait, il en est même persuadé. Et en fait, il va même écrire un traité qui est par contre très intéressant sur le développement de l'intelligence. Si un jour vous tombez dessus, il faut le lire, c'est très intéressant. Et en fait, pour lui, il y a une dépendance d'hérédité. Donc si on peut éliminer certaines personnes, pas forcément physiquement, mais d'abord les stériliser.
D'accord.
Qui fait qu'ils ne se reproduisent plus. Donc à partir de là, la dégénérescence, théoriquement, est arrêtée. Mm-hmm. Et d'autres, pendant le cadre de certains criminels, en fait, soit les enfermer, soit définitivement les éliminer.
Et ça, c'était véhiculé.
Ça a été véhiculé, ça a été même partagé dans toute l'Europe, dans le monde. Alors, c'est pas une anecdote, parce que c'est vrai. 39-45, on n'a rien inventé.
Bah justement, je pense à ça.
On n'a rien inventé. Les camps de stérilisation en Hollande, en Norvège, en Suède, ou au Canada et aux États-Unis existaient déjà. Pour les personnes handicapées qui avaient la trisomie 21 qu'on connaît aujourd'hui. Et tout, parfois, on s'en servait même pour certains opposants politiques.
D'accord.
Donc tout ça arrive tout doucement. Et en fait, en France, ça arrive aussi par plusieurs médecins, dont un certain dont je parlerai la semaine prochaine, Alexis Carrel. Mm-hmm.
En tout cas, donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour suivre pour la suite de cette chronique. Et du coup, ouais, je perds ma voix parce que là, du coup, je fais tout un tas de liens et ça fait... Oui, c'est le mot, ça me fait flipper. Parce que plus les hommes essayent de trouver un peu de savoir pour améliorer la condition humaine, ils deviennent le pire, même pire que leur savoir. Ils essayent d'amener quelque chose pour les malades, mais du coup, on les met de côté, on les disqualifie. Alors, comment...
On disqualifie pas, on invente un idéal. Totalement différent.
En tout cas, rendez-vous... Doc, on est en vacances jeudi prochain.
Oui, mais juste pour peut-être une piste de réflexion.
Oui.
Galton et d'autres étaient sincères dans leur démarche, malheureusement.
D'accord, c'est envoyé. Donc voilà, et une petite pause musicale. Après, on se retrouve avec l'invité de ce jeudi, donc Rama, et le patron du Soleil d'Afrique. Et je vous propose qui ? Iggy Pop, Je Passagère.
passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight.
Passagères, donc Diggy Pop sur les ondes de la radio HTR et de Principe Actif. Et là tout de suite, votre rendez-vous, votre invité de ce jeudi, c'est Soleil d'Afrique, la patronne de Soleil d'Afrique, Rama Diop, qui nous a reçu. Donc là, c'est une jeune patronne qui est venue s'installer ici à Rouen. Donc elle est venue de Paris pour proposer ici au Rouennais quelques recettes voilà, exotiques d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, écoutez ça, vous allez tout découvrir sur le restaurant Soleil d'Afrique.
Où vous avez appris à cuisiner?
C'est ma mère, depuis le Sénégal. J'avais mon resto depuis le Sénégal.
Comment ça vous est venu, pardon, cette passion de la cuisine au point d'en faire un métier finalement?
Ah, j'adore cuisiner. Depuis tout petit, j'étais avec ma mère à chaque fois que je cuisinais. Après, je suis amoureuse de la cuisine.
J'ai vu tout à l'heure dans la carte, c'était. Il y avait un peu pour les végétariens, pour les gens qui voulaient poisson. Toi, t'aimes bien, enfin, tu fais un peu de ta culture, mais des fois, tu l'associes un peu ouvert aux autres.
Oui, c'est cuisine métisse. C'est la cuisine métisse, puisque les MSC de volaille, c'est pas un truc sénégalais. On fait des aiguillettes de volaille au lait de coco, MSC de volaille curry ou paprika, avec la crème. Et MSC de bœuf sauté aux oignons rouges, tout ça c'est la cuisine qui est un peu française.
Tu l'as ouvert quand ton restaurant en fait?
Avril passé, je l'ai racheté.
Avril 2018.
Moi ce qui m'a surpris la première fois que j'ai été manger chez vous, donc ce fameux tiep au poisson, c'est la présence du chou. Est-ce que c'est un ingrédient fréquent dans la cuisine sénégalaise ou est-ce que c'est un côté métissage?
Ah, les légumes, nous on mange beaucoup de légumes au Sénégal. Okay. Nos plats sénégalais, on fait sauce, légumes, poulet, viande, mais toujours accompagné avec du riz. Mais les choux, ça fait partie de notre culture. On le prépare tout le temps avec le tiep.
avec le mafé.
Est-ce que les Normands, c'est des clients faciles? Tout le monde dit que c'est des êtres vivants.
Non, pour... non, pour moi, franchement, j'ai plus de clients français qu'africains. Et ils viennent, les Africains, oui, mais j'ai plus français puisqu'on est à la rive droite. Donc, mais ils sont pas difficiles. Hein,
ça t'a déjà arrivé quand ils commandaient? Quand il disait le nom d'un plat, il le disait un peu mal parce que ça ne commence à pas la
même. Oui, des fois il dit le diep, le tchep au lieu de tchep.
Ah, le diep, oui.
Il dit diep, mais bon, je comprends ce qu'ils veulent dire et j'explique aussi. Il y en a qui viennent qui ne comprennent pas vraiment la carte. Il faut que je me mette à expliquer que le tchep, c'est notre identité du Sénégal. Mm. Après, il y a mafé, les Maliens le font aussi, mais ce n'est pas la même façon. Mm. Et il y a ça, il y a autre chose. Pour les grillés attaqués, par exemple, c'est ivoirien. Mm. Les bananes plantains, c'est les Ivoiriens. Mais on mélange toute l'Afrique, quoi. C'est le soleil d'Afrique.
Oh,
question secrète de fabrication, je ne sais pas si on peut la poser. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse sauce au piment?
Ah oui, des épices africaines. Hein.
Ah.
On achète le vrai piment, mais on le fait avec des épices.
C'est quoi le plus fort piment que tu sers?
Le rouge, puisqu'il y a sauce verte que je prépare avec des olives, avec du piment, mais pour que ça soit pas très fort.
Et ce fameux riz, là, c'est quoi le secret de la saveur de ce riz?
C'est comme j'ai dit, avec le piment, si on a des épices qui viennent de chez nous, qu'on utilise pour notre riz. Et en même temps, il faut savoir doser le riz. Le tchep n'est pas facile à préparer. Il y a beaucoup de gens qui essayent, mais ils n'y arrivent pas. Des fois, c'est trop sec, des fois, c'est trop mou. Donc, il faut vraiment savoir doser l'huile, l'eau, le riz, et il faut, c'est un truc que, par contre, moi, je le fais avec les yeux, je mesure rien du tout. Parce que j'ai l'habitude de préparer en Afrique des grosses marmites. Les restos africains, c'est des grosses marmites.
C'était venu comment l'idée d'appeler Soleil d'Afrique, ton restaurant? C'était un truc que tu avais déjà un peu avant quand tu faisais de la cuisine ou...
Oui, c'est venu comme ça parce que j'ai cherché un nom. Et je voulais vraiment donner le nom de mon village qui est Saint-Louis, Wallo. Et je voulais tout dire que ouais, ça va être le Wallo. Tout on m'a dit, j'ai parlé avec des connaissances qui m'ont dit, mais les gens vont se poser la question, c'est quoi Wallo, c'est où Wallo? Tout le temps, il faut se mettre à expliquer. J'ai dit non. Finalement, on va faire comme Normandie, il fait froid, il pleut tout le temps, on amène le soleil.
Moi, je vais faire mon normand. C'est quoi Wallo? C'est où Wallo?
Wallo, c'est un village qui est après Saint-Louis. Saint-Louis, c'est le capital de Wallo. C'est dans le nord du Sénégal. C'est entre Mauritanie et Sénégal. C'est là où il y a la fleuve,
lac Rose.
Non, c'est pas lac Rose.
C'est pas là-bas?
Non. Le fleuve Sénégal qui distribue l'eau, Dakar, partout, c'est lac de guerre.
Oui.
Donc, il y a une histoire de Wallo qui c'était des femmes guerrières. Ils étaient là-bas et ils avaient des problèmes avec les gens, les coloniales, tout ça, qui venaient pour prendre des esclaves. Mais il y avait des femmes qui ne se laissaient pas faire, qui disaient, au lieu d'être esclaves, elles préfèrent se brûler dans une case. Et c'est ça qu'on les appelle les guerrières. C'est Talatainder, ça s'appelle Talatainder l'histoire.
D'accord.
Je fais partie de cette tribu.
Il y a une fierté qui est en quelque sorte comme
nom. Elle est fière. Et c'est des bosses. Les femmes Wallo, c'est des personnes qui. C'est des femmes que tu vois tous les matins au marché, c'est des vendeurs de poissons. Et c'est eux qui viennent à Dakar pour travailler.
Comment vous avez choisi de vous installer à Rouen? D'où vous est venue cette idée de dire, bah, je
dernièrement.
Par contre, moi, dès que j'ai entendu le nom, j'ai aimé. Après, j'avais des amis qui habitaient à Rouen, que je connaissais, quand j'étais sur Paris, parce que j'ai fait 8 ans sur Paris avant de venir en Normandie. Et j'avais mon boulot et tout. Après, je faisais une formation qui était gardien d'immeuble. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit je vais travailler en Normandie.
D'accord.
Donc, mes filles sont venues du Sénégal et je ne voulais pas rester sur Paris. Je préférais une ville plus calme que Paris.
D'accord.
Quand je suis arrivée, après, j'étais à Elbeuf. J'étais gardien
de l'homme. C'est pas rond là-bas, c'est sûr.
Après, bon, j'ai pas pu vraiment gérer le boulot que j'ai eu le diplôme. Et je rêvais d'avoir mon resto. Depuis que je suis arrivée en France, après j'ai connu une personne qui m'a présenté le monsieur qui voulait vendre son resto. Et dès que j'ai pris le resto, j'ai déménagé à Rouen. Je n'ai même pas attendu les 3 mois de prêt. Je payais le loyer à Elbeuf, je payais le loyer ici en même temps.
Tellement tu étais pressé de partir.
Ah oui.
Vous nous avez dit que le kebab c'était typiquement sénégalais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un plat typique du Nord?
Oui, c'est le
Tchèb. Voilà, c'est ça. Ah, le Tchèb, c'est le Tchèb du Nord. Là.
Le Tchèb, on dit Tchèb Ndar, ça veut dire Ndar, c'est Saint-Louis. Ça s'appelle même Tchèb Dien Pendambay. C'est une Saint-Louisienne qui a créé le Tchèb.
Tchèb Dien et Tchèb, c'est toujours la même chose.
Oui, c'est ça.
Ah, je viens de comprendre, là, je viens de...
Vous venez juste de manger Tchèb Dien. Dien, c'est le poisson.
Ok.
C'est une légende ou elle a vraiment existé, Pendambay?
Pendambay, c'est vrai, elle a vraiment existé. Hein. C'est une Saint-Louisienne qui faisait le meilleur kebab du Sénégal. Donc, c'est pourquoi on dit Tchèb Dien Pendambay.
Alors, la petite tranche de tomate à côté de la Tchèb Dien, est-ce que c'est quelque chose de traditionnel ou est-ce que c'est pour permettre aux Normands aussi d'apaiser leur bouche après le petit plume? Parce que là, actuellement, j'ai le soleil de l'Afrique dans la bouche.
Non, mais c'est pas ça. Au fait, c'est juste qu'on veut que ça soit un peu chic. Quand on servit des plats, on fait bien décorer, mettre des tomates, parce que les gens aiment bien les légumes.
Donc, et vous êtes ouvert de quel jour à quel jour et de quand et quand, les horaires d'ouverture?
Ah, les horaires d'ouverture, c'est du mardi au samedi. Et puis, c'est de 11h30 à 14h. Après, on prend une petite pause de 19h à 23h. Par contre, moi, je fais de telle sorte que tout ce qui est à ma carte, je ne peux pas dire tout le temps, il y en a, mais de faire vraiment mon mieux que les gens trouvent le maximum qu'on trouve sur la carte tout le temps, tous les jours.
Les années jazz, c'est le rendez-vous jazzy de tous les samedis, dès 18h sur Radio HDR. Présenté par Michel Jules, venez découvrir avec nous les jazzmen des années 70 et les événements rouennais autour du jazz. Les années jazz sur HDR, c'est chaque samedi à 18h. Rediffusé le mercredi à 19h, 99.1 FM. Retrouvez toutes les émissions sur radiohdr.net.
Soul Connection, la black music des années 60 et 70. 2 heures de plaisir toutes les semaines à déguster en 3 étapes. En entrée, 60s et 70s, soul, classics, soul, disco, funk, en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, dance floor, soul connection, disco, funk, classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99.1 à Rouen. Tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.4 FM à Évreux. Et en podcast sur principeactif.net.
Sur la carte, les plats pardon, qui ne sont pas sur la carte et que des fois vous avez envie de préparer aussi. Quand vous faites un petit plaisir, vous mettez une ardoise et puis tiens, aujourd'hui je vais faire ça.
Je ne le fais pas souvent, mais j'ai des clients qui me demandent par exemple de faire sauce gombo qui n'est pas sur la carte, que je pense pas que la plupart de mes clients vont aimer, mais si je trouve un Sénégalais ou un Africain ou même un Français qui connaît ce que ça veut dire gombo, me dire que oui, je veux que vous me faites un plat de soupe kanga, Mais par contre, ces plats-là, je ne peux pas prendre une seule commande.
Ouais.
Puisque nous, nos plats, on ne peut pas préparer petit. Donc, il me faut plus de 5 plats pour lui faire ce kanja. Ça veut dire que j'ai un client qui me dit que oui, moi, je veux que vous me faites ce kanja ou kaldu. Kaldu, c'est un plat sénégalais. C'est comme il y a ça, mais on cuit plus l'oignon et on met plus de citron. Donc, et moins d'huile. Donc, la personne me dit, ouais, je veux que vous me faites kaldu, c'est avec le poisson, je le fais. Je fais ça, mais sur commande.
Alors, vous en parlez, je sais qu'il est à la carte, puisque j'ai hésité à le prendre. Le yassa, qu'est-ce que c'est?
Le yassa, c'est du poulet mariné avec citron et oignon sauté. Avec citron aussi, moutarde, tout bien mariné et avec du riz blanc, c'est ça les yassa.
D'accord, donc le riz blanc, donc pas le riz rouge.
Pas mais... le riz rouge, d'accord. Le riz rouge c'est que le tiep, sauf un client qui prend avec du poulet émincé, avec purée.
Est-ce qu'il y a un plat que vous aimez cuisiner? Parce que tout simplement, c'est un plat que vous sentez bien avec vous, vous aimez cuisiner. Vous préférez cuisiner.
C'est le mafé. On m'a même dit de faire des burgers mafé. J'ai dit, vous rêvez, vous.
Ça, c'est le mix des cultures.
Ah oui. Mais par contre, c'est le mafé.
Est-ce qu'à votre avis, il y a un plat typique du Sénégal qui serait pas du tout adapté pour la population normande? Je sais pas, peut-être quelque chose d'épicé, des saveurs qu'on connaît pas forcément très bien dans le coin. Ou est-ce que tout est adaptable? À partir du moment où le client est un peu ouvert d'esprit.
Tout est adaptable puisque moi, je dis que la cuisine sénégalaise n'est pas vraiment compliquée. Puisque il y a d'autres pays qui font des viandes fumées, beaucoup de poissons fumés, ils mélangent beaucoup de choses que peut-être forcément les Normands ne vont pas aimer ou ils ne connaissent pas, ou ils ont peur de manger, peut-être ça ne va pas, ils sont peut-être, ils ne peuvent pas vraiment manger ces plats parce que c'est compliqué, c'est des produits qui viennent du pays, tout ça. Par contre, les plats sénégalais, je pense que même les autres pays africains, ils nous disent ça. Par contre, même en Afrique, partout où tu pars en Afrique, il y a un restaurant sénégalais. Et c'est le plus restaurant qui marche.
Le Sénégal, c'est un peu le pays de la gastronomie de la Méditerranée. Ouais, bon, on va essayer de garder notre patriotisme chauvin.
Non, bien sûr. Quand je suis allée en vacances en Algérie, donc chez moi, il y a toujours un restaurant sénégalais. Et,
oui.
Tu retrouveras à peu près les mêmes plats. Et c'est tout le temps le mafé qui est recommandé.
Tout à l'heure, on parlait des berbères aussi, je crois, de la cuisine berbère qui avait des influences avec le Sénégal. Est-ce qu'on retrouve un petit peu des influences entre la cuisine berbère et la cuisine sénégalaise?
Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment berbère. Je connais les Arabes. Je connais les...
Berbère, c'est notre culture d'Algérie.
C'est même la dame qui a gagné le meilleur couscous, c'est une Sénégalaise de cette année.
Eh ben.
Même une Sénégalaise fait du couscous.
Oui, même chez nous, on fait du couscous. On a aussi notre propre couscous.
Vous allez rajouter le couscous de mille.
Hein?
Vous allez le rajouter un jour à la carte, le couscous ou pas?
Oh, le couscous, il faisait partie, mais bon, les gens, ils préfèrent manger couscous, c'est les Arabes que c'est les Sénégalais. Donc, ça ne se demandait pas beaucoup. Moi, si je veux vraiment manger couscous, je vais manger chez l'Arabe.
Vous-même, vous mangez souvent du millet, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Du mille.
Oui.
C'est du millet.
Mille.
D'accord, bon, je suis relativement rassuré.
Avec moi, c'est normal qui reste pour faire à dire les mauvais plats.
Non, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que pour des raisons personnelles, j'ai beaucoup de mal à manger du millet, puisque je m'appelle millet moi-même, donc ça me pose des soucis, bien sûr, et alors, le couscous à sénégalais serait potentiellement meilleur couscous.
Mais on fait même le couscous que eux ils font.
Ah.
Mais par contre.
Alors, quand dit eux, elle parle de moi aussi.
Oui, elle montre Inès du doigt. Inès qui fait peut-être du couscous. Inès, ça t'arrive de faire du couscous?
Oui, bah, moi, mais nous, on fait le couscous aussi comme le yassa. Ça veut dire qu'on fait le couscous et on coupe les oignons, on le saute Et puis on fait du poulet ou de la viande, on met sur le couscous. D'accord. Et on le mange comme ça, sans faire la sauce liquide, tout ça.
Ok.
On fait couscous comme ça. On fait couscous aussi avec de la sauce rouge, des légumes, du poulet, merguez, agneau, tout.
Ok. Bon, moi j'avoue que ma connaissance personnelle de la cuisine du couscous se résume à offrir une boîte de conserve.
Je sais que nous, on a le couscous blanc aussi chez nous, en fait. Hein? C'est une autre sauce. Moins... Bah, elle est passée par les blanches, elle est un peu plus transparente. Oui. Mais elle a moins de goût, en fait.
Donc là,
nous, on a le couscous rouge et le couscous blanc.
Le berbère, quoi, du coup.
Berbère, ouais.
De toute façon, là-bas, c'est un plat berbère, le couscous, non?
Non, c'est pas rouge, c'est je pense.
C'est pas berbère, c'est arabe.
Ah d'accord, ok.
C'est pas berbère. Nous, les berbères, on a juste un plat, mais personne ne le connaît.
C'est quoi, tagine?
Non, c'est pas tagine, c'est une sorte de chorba, on appelle ça du march.
Chorba. Donc c'est un genre de ragoût.
Si on le rapproche, c'est de la chorba, ouais. Mais c'est juste la recette qui change, la viande okay. Et les trucs dedans.
Ouais, c'est pas du tout la chorba, en fait.
Hein?
C'est pas la chorba, en fait.
Moi, je la rapproche à la chorba, mais c'est un peu ça, en fait. C'est une sorte de soupe et tout ça, mais elle est un peu plus épicée.
Ouais, c'est une sorte de ragoût.
Alors que eux, elle est moins épicée. Ouais. Ma belle-sœur qui est arabe, elle, c'est moins épicée. Nous, on met le piment, mais laisse tomber, c'est comme on le boit comme de l'eau.
Là, on est presque plus dans le choc des cultures, le concours culinaire des HDR que le mille des cultures.
Ouais, mais je sais pas, apparemment, les Sagadis, ils savent bien faire un couscous.
Est-ce qu'il y a des légumes en vous? Pourquoi t'as travaillé avec vous? T'aimes travailler avec
Les légumes,
ouais.
Moi, j'aime tous les légumes. J'aime vraiment travailler avec. J'en mange pas beaucoup quand même. Mais je travaille avec les légumes et les clients aiment bien les légumes aussi. À chaque fois, donc, j'ai fait des menus végétariens, par exemple, le yassa, le kef, tout ça, je peux le servir qu'avec des légumes, sans viande ni poisson.
Mmh. Ouais. Pour le coup, la tomate dans le tiep, ça veut dire qu'on a un fruit américain dans un plat africain, enfin dans un plat sénégalais avec des inspirations, en tout cas des petits échanges culturels berbères.
Mais la tomate, c'est pas un fruit américain.
Ça vient d'Amérique à la base, la tomate, non?
Mais au Sénégal, il y a beaucoup de tomates.
Ah bah oui, après on exporte, mais c'est quand même un bon idée.
Non, on est en train de, par exemple, à mon village, le Wallo, on produit beaucoup de tomates. On cultive beaucoup de tomates et patates douces.
Les patates douces, alors ça. Mais déjà. Vous faites voyager dans mes souvenirs culinaires. Malheureusement, on commence à manquer de temps, mais c'est pas grave, on parle. La petite banane, qu'est-ce qui lui arrivait de cette petite banane qu'on peut retrouver dans votre tiep? Est-ce que c'est une banane plantain, vous me disiez? Qu'est-ce que c'est que la banane plantain? Et puis comment elle est cuite? Est-ce qu'elle est frite?
Elle est frite.
Parce que c'est très bon.
Oui, c'est très bon. Vu que vous n'avez pas laissé dans votre assiette.
Ah oui. Il n'y a pas de risque.
Ça veut dire que c'est très bon. C'est des bananes, c'est différent des vraies bananes. Qui sont pas ces légumes, c'est pas des fruits,
ouais.
Donc ça vient de la Côte d'Ivoire, comme je vous dis. Après, on le prend, on le frit. Même les Antilles, ils l'utilisent beaucoup, mais d'autres manières. Ils prennent les bananes qui sont pas mûres, ils le préparent, ils le font frire. C'est leur façon de préparer. Bon, je suis pas antillaise, je peux pas vous expliquer ça, mais par contre, la banane plantain, franchement, les gens l'utilisent beaucoup. De façon différente. Même ça, on peut faire des desserts avec.
Ouais. Voilà, honnêtement, on met une petite eau de sucre avec, ça y est.
Non, mais vraiment bien mûr, on peut faire des beignets avec.
D'accord.
Oui.
Des beignets de banane.
Ah oui.
Là, vous parlez de desserts, vous faites aussi des desserts qui sont fort bons, si mes souvenirs ne me trahissent pas.
Du dur à la mangue là.
Il y a le
ça s'appelle
délice exotique
et tarte noix de coco.
La tarte noix de coco avec le coulis framboise, ça c'est le vrai choix des champions pour le coup.
Tu es d'accord, tu voudrais mettre
moi aussi en fait. On peut prendre un morceau de sur ça, verra.
Daniel, est-ce qu'on a le temps pour des desserts?
Bah écoute, j'ai envie de te dire, je sais pas quelle heure il est, à mon avis ça a commencé à être short.
Ouais, parce que Romain il a dit à 14h.
Oui, il est 14h06, je crois qu'il va falloir qu'on monte. Bon bah écoutez, ce fut un bon repas, une conversation intéressante, et puis je crois qu'on va rendre la parole à Ousmane dans le studio du Blablamix.
Eh ben ouais, voilà, c'est moi qui récupère la parole. Et voilà, il est 17h55. L'entretien était vraiment cool comme il faut. Et puis voilà, la qualité de l'audio, donc on ne le dira jamais assez. Il faut choisir les bons matériels pour faire du bon boulot. Donc voilà, et je m'excuse auprès de nos auditeurs pour la qualité de l'audio. Mais on a fait ce qu'on pouvait. Il fallait quand même diffuser cet entretien. Et puis voilà, c'était agréable en tout cas de réentendre cet audio, la discussion, le repas. C'était vraiment cool. Marie, c'était toi qui nous a manqué là-bas. Donc on on a essayé de te remplacer.
Vous m'avez pas invité, mais bon.
Si, on t'a invité. J'avoue qu'avec les grèves, les facteurs, ils ont pris quelques libertés.
Je recevrai ma carte bientôt, alors.
Non, donc voilà, c'était cool. Qu'est-ce que je peux dire ? Mais pour les auditeurs qui, hier, qui étaient au 106, voilà, qui ont assisté au concert d'Oxmo Puccino, qui avait gagné des places par le biais de la radio, ben, n'hésitez pas à nous envoyer vos posts. Voilà, si vous êtes pris en photo, dans le concert, avec l'artiste, envoyez-le-nous. Ça nous fait plaisir toujours de les revoir, ces images, et puis de savoir que, voilà, que vous avez profité aussi de ces places. Et puis, voilà, il nous reste 4 minutes. Marie, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose à dire ?
Je pourrais vous remercier. Non, ouais. Non, j'ai pas trop d'autres idées. On peut donner les émissions qu'il y a après, si tu
bien
les as.
Sûr, bien sûr. Bah, les émissions qu'il y a après, je sais pas. Oui, bah, rester sur le mix des cultures, bien sûr. Et puis, on va se quitter avec le tango des belles dames d'Oxmo Puccino. Et puis, voilà, je vous dis à demain avec toute l'équipe et aussi notre invité, donc, qui est Of the Blonde Girl, Girl Blonde, excusez-moi, le du prénom. Donc voilà, c'est le groupe qu'on va recevoir demain. Et puis voilà, si vous voulez tout savoir et aussi comment je vais prononcer le nom demain, bah, suspense. Bah. Donc voilà, le tango des belles dames, on se quitte avec ça. Et si vous avez profité du concert d'hier, bah, voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir de les regarder, pourquoi pas, et les diffuser en direct. Voilà, c'est vous qui voyez. Oxmo Puccino, le tango des belles dames.
Alléluia, alléluia.
T'es une belle femme, mais où est-elle? Attends, quelqu'un toque à la porte de ma loge. Sur mon fuit moins string rose. Et c'est pas elle, mais où est-elle quand même? On l'apprécie pour les mêmes raisons que tu l'as choisie. Soit disant, t'es le premier à avoir réussi à toucher son fessier. Chaque fille a ses dossiers sombres et les belles aussi. Naïf de croire que la tienne était différente. Dans ma chambre, elle dit qu'elle t'aime, se déshabille. Une fois à poil, je mate un peu son cuir et je lui dis, file menteuse. Je vends pas autant de 10. Dans la chambre d'à côté, on console les filles tristes. Le capiche, c'est pas le crash, t'es kické. Quand du mat, son gars débarque un canon scié. J'ai mon 6 de côté pour gars qui s'est trompé de femme de sa vie. On veut marier les belles dames, les belles dames. En attendant, on cherche les belles femmes. Et si t'assumes pas, elle t'enflamme. Blam, blam, pas, elle fait son taf. Production veille ton truc. On veut marier les belles dames, les belles dames. En attendant, on cherche les belles femmes. Et si t'assumes pas, elle t'enflamme. Blam, blam, pas, elle fait son taf. Production veille ton truc. Ok, t'es belle, c'est plus une exclu. En plus, sur internet, y'en a plein qui ont ton cul. S'ils lisent que t'es moche, qu'ils aillent se faire en l'air. Que les autres, elles vieillissent, on s'y habitue. Même si je suis grillé, je m'en balèque. T'inquiète, j'en trouverai une qui connaît pas mes textes. De manière, j'ai jamais vraiment été beau. Je représente pour les vieux et les moches. Filet pêche entre les dents, l'embonpoint sur les hanches. Je t'engraisserai même pas au McDo. Je préfère investir, créer des Greg Donald. Bon, va piller, pigeon, papillon. Tu sais qui je suis, allumeur de belles flammes. Respecteur de belles dames. Marier les belles dames, les belles dames. En attendant, on cherche les belles femmes. Et si t'assumes pas, elles...
8h de l'après-midi.
Bienvenue à...